Alors bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs. Je vois qu'il y a des gens aussi d'autres églises qui sont là. Donc bienvenue à vous. Bienvenue à l'église de Saint-Maur pour ce culte. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, en fait, le thème qu'on va aborder, c'est l'évangile, une puissance de vie au quotidien. Je pense que c'est un thème que vous avez déjà dû tous beaucoup entendre. On va parler de l'évangile. L'évangile, je le connais. L'évangile, peut-être que je suis à l'église. Je sais parfaitement en quoi ça consiste. Peut-être que même je le prêche l'évangile, peut-être que même je le partage aux gens. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on s'arrête un petit peu et qu'on se pose devant la parole de Dieu et qu'on se laisse transpercer, pénétrer par la puissance du message de l'évangile. J'ai vraiment envie qu'on reprenne et à travers ce texte, Éphésiens 2, versets 1 à 10, on va voir exactement les étapes de l'évangile et on va se rendre compte que l'évangile, c'est quelque chose qui a une puissance, c'est quelque chose qui peut nous transformer, c'est quelque chose qui agit dans notre vie. C'est pas seulement quelque chose que je dis aux gens pour leur donner quelque chose, mais c'est quelque chose que je peux vivre aussi. Si nous ne le vivons pas, comment est-ce que nous pouvons transmettre l'évangile aux gens? C'est un petit peu le panorama que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et le plan qu'on va suivre aujourd'hui va être à travers le passage d'Éphésiens 2, 1 à 10. J'ai vraiment envie qu'à la fin de ce message, à la fin de la parole, on puisse se dire comme dans Romains 1, 16, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance qui sauve pour tout homme qui croit. Je vais prier d'abord pour remettre ce temps entre les mains de Dieu et puis on va attaquer le texte. Père éternel, merci pour ta grâce qui nous permet d'être là, Seigneur. Sinon, nous ne ferons rien. On veut s'humilier devant toi, s'humilier devant ta parole, s'humilier devant ta présence et te demander que tu viennes nous remplir, demander que tu viennes nous guider et nous éclairer à travers ce texte. Merci pour ta parole qui est juste, qui est véritable, qui est parfaite à ton image. On te demande vraiment que tu nous guides pour qu'on puisse comprendre, vivre et expérimenter la puissance de l'Évangile. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ok. Rapidement, nous, dans notre église, on a décidé de faire une étude suivie de la lettre aux Éphésiens en ce moment. Donc aujourd'hui, c'est la troisième intervention que je fais, enfin que je fais, troisième intervention qu'on fait dans l'église. Donc il y a eu Hélène qui a prêché sur la première partie, Éphésiens 1 à 14. Ensuite, Clément, la semaine dernière, a pris la suite, donc Éphésiens 15, 1 à 15 jusqu'à la fin. Et on avait vraiment à cœur de choisir l'épître aux Éphésiens pour qu'on puisse vraiment recevoir en tant qu'Église ce que l'apôtre Paul avait à nous dire. L'épître de Paul aux Éphésiens se structure un petit peu de la même manière que tous les épîtres de Paul, c'est-à-dire qu'une partie du chapitre 1 au chapitre 3, là où on est en ce moment, c'est un peu la partie théorique, la partie orthodoxie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le théorique? D'être enfant de Dieu, quelles sont les bénédictions qu'on a. Et puis du chapitre 4 au chapitre 6, c'est plus la phase pratique. Comment est-ce qu'on vit en tant qu'assemblée? Comment est-ce qu'on vit en tant qu'église? Comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien? Donc la première partie avec Hélène, on avait vu les bénédictions passées, les bénédictions présentes, les bénédictions futures en tant que chrétien. Avec Clément, ensuite, on avait vu que c'était une prière que Paul nous faisait, une prière que Paul nous demandait de qu'on se rende compte, en fait, du message, qu'on se rende compte des richesses que cela nous donne d'être chrétien. Et là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la suite. Donc, c'est la prière de Paul qui continue. Et Paul continue à nous parler à travers ce texte. On va voir rapidement le. Okay. Donc, le plan qu'on va étudier aujourd'hui, on va tout d'abord regarder de notre nature pécheresse. Où est-ce que nous étions? Quelle était notre situation? Quelle est peut-être notre situation aussi aujourd'hui, en tant que chrétien? Deuxièmement, l'action de Jésus-Christ du verset 4 au verset 7. Qu'a fait Jésus-Christ, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et ensuite, du verset 8 au verset 10, notre attitude, notre réaction en tant que chrétien face à ce cadeau. Alors, premièrement, verset 1, si vous avez vos Bibles, du coup, moi, j'affiche pas le texte, comme ça, vous cherchez dans vos Bibles les références. On va pas tout vous mâcher quand même. Donc, si vous avez vos Bibles, dans Éphésiens 2, on commence. Quant à vous, verset 1, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. C'est comme ça que l'apôtre Paul continue sa prière. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Je pense que là, l'apôtre Paul nous dresse un tableau très très sombre et il est très direct par rapport à notre situation. Si vous posiez encore des questions, Je pense que là, l'apôtre Paul apporte une terrible réponse. Il nous parle vraiment de péché. Ici, il nous parle de péché. Mais le mot péché, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre, qu'on n'aime pas trop entendre dans notre société, dans la vie de tous les jours, où on est avec nos collègues, où on est avec nos amis, où on est avec nos camarades, voilà, je cherchais le mot, nos camarades. Est-ce que vous allez dire, ah, tu pêches, ah, tu mens, c'est un péché, ah, tu voles, c'est un péché? Non. Le monde nous incite et nous invite à pécher. Les valeurs de ce monde sont fondées sur le péché et on ne parle jamais de péché. Au contraire, on nous dit, vas-y, complète-toi dans le péché, jette-toi dans le péché, vas-y, fais-toi plaisir, entre guillemets. Et même dans nos églises, je pense que la notion de péché est souvent oubliée. Les églises, on prêche beaucoup la grâce, l'amour de Dieu, les bénédictions, peut-être que le fait qu'on va devenir riche, le fait qu'on va devenir connu, ou je ne sais pas, on va être aimé. Bien sûr, tout ça, c'est possible dans notre vie chrétienne. Mais la notion de péché est fondamentale dans notre vie de chrétien. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas tout le reste qui va arriver. Et si nous ne reconnaissons pas notre péché, nous ne pourrons pas reconnaître tout le reste qui va arriver. Le péché, c'est vraiment quelque chose qui nous entoure, et on pourrait assimiler ça, en fait, c'est dit dans le verset 3, hein, au prince de la puissance de l'air. C'est comme si c'était quelque chose qui nous entourait. Ça n'a ni odeur, ni couleur, on ne peut pas le toucher, mais c'est présent. Et c'est ce qui caractérise le péché dans notre monde. Il est présent, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il est là et il nous entoure. Quand on pense au péché, il y a vraiment deux... Voilà, comme ça vous pouvez suivre. Voilà. On va maintenant étudier la typologie du péché. Quels sont les types de péchés, entre guillemets, qu'il y a? Il y a vraiment deux grandes catégories de péchés. La première catégorie, je pense que tout le monde la connaît, enfin, c'est le péché par commission. On regarde, hein, toujours au verset 1, vous étiez morts à cause de vos fautes. À cause de vos fautes. Faute en grec, je ne connais pas par cœur. Hein. Faute en grec, le mot grec, c'est paraptoma. Paraptoma, et ça veut dire faire un faux pas. Faire un faux pas, s'écarter de la ligne. Donc faire le péché par commission, en fait, c'est ça. C'est, là, il y a la moralité de Dieu, il y a la perfection de Dieu, et je fais un paraptoma, je fais un pas qui m'écarte. Dieu me dit, tu ne voleras pas, je fais un pas pour m'écarter de la moralité de Dieu, je fais un paraptoma. Donc ça, c'est un péché par commission, je commets quelque chose de mauvais. Et ça, je pense que tout le monde a en tête qu'est-ce que c'est, enfin, voilà, les différents péchés, les 10 commandements, tous les péchés qu'on peut faire, ce sont les péchés par commission. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui est péché par omission, donc j'omets. Et le mot grec pour justement le péché, c'est armitia. H-A-R-M-I-T-I-A, je ne l'ai pas écrit, mais c'est armitia, et le plus important, c'est on manque le but. Donc, commission, c'est ce que je fais de mal. Omission, c'est ce que je ne fais pas. Deux choses, donc, quand je pêche. Ce que je fais quelque chose de mal, mais ce que je ne fais pas, ce que je ne fais pas de bien. Quand on dit on manque le but, c'est en rapport à quoi? C'est que Dieu, on le voit dans nos études de maison, Dieu avait un plan et un royaume pour nous. Il avait un plan parfait de toute éternité. Dieu avait prévu, comme on l'avait vu dans le royaume, il avait prévu un peuple pour lui, il avait prévu une terre, un royaume et un règne parfait. Et cette perfection, en fait, elle s'est retrouvée avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où il y avait une communion parfaite avec Dieu et où les hommes ont décidé, à travers Ève et à travers Adam, c'est Ève qui a mangé du fruit et c'est Adam qui était responsable, mais l'homme et la femme ont décidé de se détourner de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, ok Seigneur, Dieu, tu me dis des choses, moi je sais ce qu'il y a de mieux. Je décide de m'écarter, en fait, de me séparer de ton autorité, et je vais décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Quand je mange de l'arbre du fruit, de la connaissance du bien et du mal, je décide moi-même ce qui est bien, ce qui est mal, et je me désolidarise de toi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le péché, c'est cette volonté de se séparer, en fait, de la relation de Dieu, se séparer de la connaissance du bien et du mal que Dieu nous donne. Et on se dit, Seigneur, je veux faire ce que je veux. Je décide de dire que ça, c'est bien et ça, c'est mal. Du coup, on manque totalement le but que Dieu nous a donné, cette relation parfaite avec lui, le fait qu'on puisse être ses enfants, ses témoins, là où il nous place. Et donc on se rend compte que finalement, le problème vient de ce qu'on fait par commission, le problème vient de ce qu'on ne fait pas par omission. Donc il y a vraiment un problème dans notre nature. Nous avons une nature pécheresse. Quoi que nous fassions ou quoi que nous fassions pas, nous péchons. Et ce problème vient de notre nature. On ne peut pas échanger. Psaume 51, verset 7. « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Bien souvent, on se dit « Ok, par exemple, moi, je vais voler. » Et parce que je vole, je suis un voleur. On dit souvent « Oui, c'est parce que tu as commis quelque chose que du coup, tu vas être cette chose. Tu as volé, donc tu es un voleur. Tu vas mentir, donc tu es un menteur. Tu vas tuer, donc tu es un tueur. » Ok ? On suit la logique. Moi, je vous dis, c'est totalement le contraire. C'est parce que tu es un menteur que tu mens. C'est parce que tu es un tueur que tu tues. C'est parce que tu es un voleur que tu voles. La nature pécheresse de l'homme est ancrée en nous. Et le péché, en fait, qu'on voit, c'est juste une conséquence. C'est pas ce qu'on fait qui va déterminer notre péché, mais c'est ce qu'on est. Et c'est ça la grosse différence. Donc voilà, on a vu premièrement dresser un plan assez sombre de notre condition, de notre misère, entre guillemets, de notre condition spirituelle. Donc on va voir maintenant quelles sont les conséquences de ce péché. Premièrement, on voit continue du verset 1, « Nous sommes morts. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes. » Aujourd'hui, je me tiens devant vous, et vous êtes là aussi. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, Mickaël ? On n'est pas mort. On est vivant, on est là, on discute. Enfin, on discute, je parle. Et du coup, quel est le sens de ce mot ? La mort, si on regarde bien, c'est la définition, c'est une absence de vie et une incapacité à réagir aux stimulations extérieures. Une absence de vie et une incapacité à réagir aux stimulations extérieures. Donc, quand on est mort, en fait, la vie est partie de nous et on ne peut pas réagir. On ne peut pas réagir à ce que l'extérieur nous fait et à ce que Dieu nous fait. On ne peut plus réagir à ce que Dieu veut nous dire. De la même manière, dans Luc 15, 24, par rapport à la parabole du fils prodigue, le père dit « Voici mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, quand le fils revenait vers le père. » C'est la même mort dont on parle. Ce n'est pas la mort physique, l'absence de vie, mais c'est la mort où on est séparés. Le fils était séparé quand il a décidé de prendre l'héritage de son père. Et le père dit, mon fils était mort et le voici revenu à la vie. De la même manière, nous sommes morts de cette manière. Donc la mort, c'est nous sommes séparés de Dieu. Ensuite, nous sommes rebelles. Fin du verset 2, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous sommes rebelles à Dieu. Donc nous, cette rébellion, c'est non seulement... Je suis séparé de Dieu, donc je suis à part, mais en plus, je continue à persévérer dans ma séparation. C'est-à-dire que déjà, j'étais séparé, et en plus, je veux aller encore plus loin, je veux encore plus m'écarter de Dieu. Je persiste dans ma direction. Donc déjà, premièrement, je suis mort, je suis séparé, et ensuite, je persiste encore. On peut le voir dans le monde, on peut le voir dans verset 2, hein, conformément à la façon de vivre de ce monde, toutes les valeurs de ce monde qu'on peut voir. On appelle ça un petit peu la culture pop, toutes les valeurs de ce monde. La gloire, la richesse, l'argent, le succès, le fait qu'on soit connu. Toutes ces choses-là, ce sont des valeurs qui sont construites par le monde pour nous écarter de Dieu, pour nous dire, moi je vais me mettre au centre, moi je sais mieux que quiconque qu'est-ce que je dois faire, et moi je vais m'écarter de Dieu. Et toutes ces valeurs-là excluent de manière systématique Dieu. Dieu n'est plus au centre, mais je suis au centre. Et nous, nous nous complaisons, nous adorons ça, et on se jette dedans, et on veut aimer ça. Également, donc, le diable, le prince de la puissance de l'air, verset 2 encore, ça c'est vraiment le tentateur par excellence. Les péchés par commission, c'est lui qui nous dit, fais plutôt ça, écoute un petit peu tes désirs, écoute ton orgueil, et livre-toi à moi. Et rapidement, le troisième, donc c'est la chair, les péchés de la chair. Verset 3, Nous accomplissons les volontés de la nature humaine, de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère. Donc là, on accomplit vraiment la volonté de notre nature, la volonté de notre chair. Et concrètement, notre corps, ce n'est pas quelque chose de mal. On va regarder tous nos besoins, par exemple la soif, la faim, même le sexe. Toutes ces choses-là, ce n'est pas chose mal. Dieu les a créées, Dieu avait un but précis pour ces choses-là. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on utilise ce que Dieu nous a donné ? Et le péché, justement, de la chair, ça consiste à abuser de ça et à détourner totalement le sens même de ce que Dieu voulait. On peut aussi y mettre tout ce qui est l'orgueil, tout ce qui est les ambitions qui ne sont pas fondées sur Dieu, toutes ces pensées qui nous détournent de Dieu font également partie des désirs de l'esprit et de la chair. Donc voilà, on a vu on avait décidé par nous-mêmes d'être séparés de Dieu. Ensuite, comme nous étions rebelles, nous sommes mis sous l'esclavage, nous avons décidé de continuer encore plus. Et maintenant, nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés, verset 3, fin du verset 3. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Nous sommes condamnés. Nous sommes séparés, nous continuons encore plus, et Dieu va nous condamner. Il y a une condamnation qui nous attend. Et cette condamnation, on sait tout ce que c'est, et on a la mort physique, et également la mort spirituelle. On sera séparés éternellement de Dieu. Et c'est ce qui nous attend. Et c'est ce qui est rappelé dans le verset 3. Pour prendre un exemple, en fait, c'est comme si il y avait un sapin. Vous connaissez tous les sapins. On le coupait, c'est-à-dire il y a son environnement naturel. On le coupe de son environnement naturel, on le prend et on le pose chez vous. Ou on le pose quelque part, hors de son endroit naturel. Et on a beau lui mettre plein de choses, on a beau lui mettre des guirlandes, on a beau lui mettre des boules de toutes les couleurs, on a beau l'embellir, quoi qu'il arrive, il meurt. Il meurt de l'intérieur. Quoi qu'il arrive, à la fin, il va mourir. Parce qu'il n'est pas dans son environnement, il n'est pas là où il fallait être. Nous, de la même manière, c'est ça. Nous avons, par notre nature, décidé d'être séparés de Dieu, on a décidé de vivre notre vie comme on le voulait, on a décidé de nous maquiller, entre guillemets, de nous bercer d'illusions avec tout ce qu'on a pu créer dans ce monde, et quoi qu'il arrive, la fin est toujours la même. La fin est toujours la même, nous sommes destinés, nous sommes condamnés à mourir. Alors là, j'ai vraiment dressé, je pense, un panneau assez sombre, et maintenant on va voir à partir du verset 4, donc là c'était notre situation de pécheur. Le péché vient de notre nature et nous sommes condamnés par ce péché. Maintenant on va voir à partir du verset 4, mais Dieu est riche en compassion. Dieu est riche en compassion et le plan de sa grâce arrive. Le plan de la grâce de Dieu arrive. Il arrive en Jésus-Christ. Rapidement, quelques versets pour mieux connaître Jésus-Christ. Jean chapitre 10, versets 36 à 38, je ne l'ai pas écrit. Si vous pouvez suivre dans vos Bibles. Comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes ? Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Jésus-Christ affirme « Je suis le Fils de Dieu et le Père est en moi et je suis en lui. » Jésus-Christ affirme qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est également Dieu. Cette caractéristique même de Jésus-Christ est excessivement importante pour nous. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est Dieu également à travers ce passage. 1 Pierre 2, 21-22, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous laissiez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Jésus-Christ est non seulement Fils de Dieu et Dieu, mais il est également un homme parfait, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché et durant sa mission sur cette terre, c'est le ministère qu'il a vécu auprès de nous, cette perfection dans ses œuvres et dans ses paroles. Et quelque chose de beaucoup plus réjouissant pour nous, Jésus-Christ était un homme. Bien souvent, on garde cette image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu, il est parfait, Il fait des miracles, il fait des guérisons, mais Jésus-Christ était un homme tout comme vous et moi. Jésus-Christ avait des besoins, on l'a vu ce matin, il avait envie de dormir, il avait envie de manger, il avait envie de boire, il avait envie de s'amuser, il avait une famille terrestre. Toutes ces choses-là, Jésus-Christ était un homme tout comme vous et moi. Et ça me réjouit d'autant plus que Jésus-Christ a aussi ce rôle de modèle pour nous. Lui qui était totalement homme, il nous montre que c'est possible, en tant qu'être humain, de vivre une vie en tant que une vie parfaite en Jésus-Christ. Il nous montre que c'est possible de vivre et de suivre Dieu, parce qu'il était un homme lui aussi. Si on réfléchit, en fait, Jésus-Christ, c'est comme si Dieu, durant l'Ancien Testament, il avait donné plein de lois. Il avait dit « Faites ceci, faites pas cela, faites ceci, faites pas cela. » Il y a près de 600 commandements en fait, qui ont été écrits, qui ont été rajoutés par les Juifs. Et les hommes n'arrivaient pas à suivre. Les hommes étaient sous la condamnation de la loi. Les hommes n'arrivaient pas à suivre toute la loi. Et Jésus-Christ, c'est cette parole qui s'est faite chair. C'est comme si Dieu se disait « Vous n'arrivez pas à suivre tout ça ?» Eh bien, je vais vous montrer que c'est possible. Je vais incarner la parole. Jean 1, la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ s'incarne et montre que la parole est en lui et qu'il est possible de réaliser tout ça. Donc non seulement Jésus a vécu une vie parfaite, non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, il nous comprend parfaitement, il nous montre le chemin, mais également, là ça affiche tout d'un coup, il a vécu, mais il est également mort. Et ça c'est très très important pour nous, il est vécu et il est mort. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est une expression de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui est riche en compassion. Verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est cette grâce de Dieu qui se manifeste. La grâce de Dieu pour nous prendre de notre condition et pour nous tirer et pour nous ramener à lui. J'essaie d'imaginer, en fait, on parle souvent de la grâce, c'est l'amour de Dieu, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, c'est des fois des mots qu'on galvaude. On se dit, ouais, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut véritablement dire ? Quel est l'impact, quelle est l'implication de notre vie de l'amour de Dieu ? Oh, mince. Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Frères et sœurs, si un jour un de vous donne sa vie pour moi, sachez que là, je comprendrai c'est quoi l'amour. Si un jour l'un d'entre vous est prêt à donner sa vie pour moi, là, je comprendrai exactement c'est quoi l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » Juste après, Paul nous dit, en effet, Romains 5, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, à peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes. Grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Déjà, moi, je ne mourrais même pas peut-être pour l'un de vous. Peut-être que vous ne mourriez même pas pour moi. Mais Jésus-Christ, en plus de mourir, il est mort pour des ennemis. Il est mort pour des gens qui le rejetaient. L'amour de Dieu est totalement... On ne peut même pas l'imaginer, mais on peut essayer de le toucher, essayer de le comprendre pour qu'on puisse le vivre. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite. Jésus-Christ est mort pour nous. Et Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité et à travers sa résurrection, nous avons une puissance. À travers sa résurrection, nous aussi, nous sommes ressuscités. Verset 6, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En gros, avec la résurrection de Christ, nous devenons des nouvelles créatures. La puissance de la résurrection de Christ est la même puissance que Dieu utilise pour nous ressusciter. Il y a la même puissance, Dieu est à l'œuvre de la même manière. De la même manière que quand il a ressuscité Christ, Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il utilise la même puissance pour nous ressusciter, pour nous faire devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. Et on va voir exactement notre condition. Nous étions morts, on l'avait vu au premier, verset 1. Dieu nous ressuscite, Dieu nous redonne la vie, Dieu nous redonne cette relation avec lui. Dieu nous permet de pouvoir l'appeler, de pouvoir le prier, de pouvoir le comprendre également à travers le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous étions rebelles, esclaves du monde, esclaves du péché, et il nous fait asseoir à la droite de Dieu. Nous qui étions éloignés, il nous fait asseoir juste à côté de lui. Nous étions condamnés à la mort, comme on l'a vu, Dieu nous a aimés et Dieu nous a donné la vie. La puissance du salut et la puissance de la résurrection de Christ nous transforme également nous quand nous décidons de suivre Jésus-Christ. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ qui nous permet également d'être ressuscité, d'être assis à la droite de Dieu et d'être aimé de Dieu. Alors maintenant, on reprend le plan. On a vu que nous étions pécheurs. On a vu que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour des, même pas pour des amis, mais pour des ennemis, pour nous donner cette vie. Et maintenant, on va regarder quelle est notre réaction, quelle est notre attitude envers ça. À partir du verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Je pense que ça, c'est un des textes que j'espère vous connaît tous. Moi, je sais le nombre de fois où je l'ai sorti en évangélisation, quand les gens me discutaient « c'est quoi ta foi ? Sur quoi est basée votre foi ?» Et ici, très clairement, on parle de la grâce. La grâce, ce n'est pas ce que je fais. La grâce, c'est ce que Dieu a fait, ce que Jésus-Christ a fait. La grâce, ce n'est jamais ce que je fais ou ce que je ferai ou ce que j'ai fait, mais la grâce est toujours ce que Dieu a fait à la croix en Jésus-Christ. Très rapidement, on va regarder la définition de la foi. On parle de foi ici, le moyen, par le moyen de la foi. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On parle souvent de foi dans le monde chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que la foi? Une définition, Hébreux 11.1, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est, en d'autres mots, c'est une confiance et une conviction absolue. Une confiance et une conviction absolue dans ce que Dieu dit. Dans ce que Dieu dit sur ce que je suis, par rapport à ma nature de pécheur, dans ce que Dieu dit par rapport au sacrifice de Jésus-Christ, et dans ce que Dieu dit par rapport à moi, quelle doit être ma réaction. C'est une confiance et une conviction absolue dans le plan de Dieu. C'est ça la foi. Une autre image, c'est Genèse 15:6. Dieu parlait à Abraham, pas encore à Abraham. Dieu parlait à Abraham en Genèse 15 et lui disait, je vais te donner une terre, je vais te donner une nation, je vais te donner des bénédictions. Quelle a été la réaction d'Abraham? Genèse 15:6, Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé comme justice. Il n'a pas fait 10 millions de choses à Abraham. Si on connaît Abraham, il avait vraiment rien de spécial. Dieu lui a promis des choses, et Abraham, il a juste eu confiance en l'Éternel de son cœur. Et c'est cette confiance-là qui l'a permis de sortir et d'aller vers le pays de Canaan. Cette confiance absolue, elle est vitale pour nous, c'est une larme du chrétien. Et d'un autre côté, on se dirait, mais c'est normal. Si on reprend, il y a vraiment une incapacité pour nous, en tant que chrétiens, de faire quoi que ce soit. On l'a vu, notre nature, nous étions morts. Comment un mort pourrait changer quelque chose à sa situation? Comment un mort, moi par exemple, je vais dire, oh, je vais essayer de sauver Tatiana. Je lui dis, j'aime bien Tatiana, j'ai envie que tu sois sauvée. Mais comment est-ce qu'un mort pourrait changer une situation à un autre mort? Comment est-ce qu'un esclave, nous étions esclaves au monde, comment un esclave peut changer quelque chose à sa situation? Comment un condamné peut changer quelque chose à sa situation? Nous ne pouvons rien changer au vu de notre nature. Seul Dieu peut le faire. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Faisons attention à l'orgueil qui nous guette à travers tout ce que nous faisons. Si on se dit, oui, c'est moi qui a fait ça ou ça, l'orgueil, c'est vraiment quelque chose que le diable utilise pour nous détourner de Dieu dans tout ce que nous faisons. J'ai mis sola Dei Gloria, à Dieu seul soit la gloire. C'est lui qui a eu l'initiative de nous aimer, c'est lui qui a eu l'initiative de nous prendre, de nous ramener à lui. Petit précis grammatical ici, ou de vocabulaire, de Becherel. La grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est on me donne ce que je ne mérite pas. La grâce de Dieu, c'est le fait qu'il me donne ce que je ne mérite pas. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Et en gros, si on veut synthétiser le message de l'Évangile, ce que j'ai fait à travers cette phrase, c'est que Dieu a fait preuve de miséricorde envers nous, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas donné ce que nous méritions, la mort éternelle, il ne nous a pas donné ce que nous méritions. Dieu a fait preuve de miséricorde envers nous, en nous offrant sa grâce, il nous a donné ce que nous ne méritions pas, Jésus-Christ mort sur la croix, une nouvelle vie, une nouvelle créature, au moyen de la foi. C'est la foi qui me permet d'accéder à cette grâce, cette confiance absolue, cette conviction profonde de mon cœur que ce que Dieu me dit sur moi, c'est vrai, je suis pécheur, que Jésus-Christ est vraiment mort pour mes péchés et que Dieu m'appelle à être une nouvelle créature. Donc, la foi est vraiment le moyen que Dieu nous donne, une simple confiance profonde dans ce que Dieu dit. Ensuite, on en vient au mon dernier point, qui est le plus important, je pense. Enfin, tous les points sont importants. Mais on va passer aux œuvres, une foi en action. Verset 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, verset 10. Deux choses importantes dedans. Dieu a préparé, nous les pratiquions. Et ces deux choses-là sont vraiment les plus importantes ici. Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Bien souvent, en tant que chrétien, on se dit, ok, Dieu m'a sauvé, j'ai accepté Jésus-Christ, Dieu m'a transformé, et maintenant je vais essayer de ne plus pécher, maintenant je vais essayer d'être quelqu'un de sage, et maintenant je vais essayer de vivre ma vie selon le plan de Dieu. Enfin, on minimise totalement en fait la puissance de l'Évangile et on minimise totalement ce que Dieu nous demande de faire. Et à ce moment-là, bien souvent, on se dédouane en tant que chrétien, on se déculpabilise, on se dit « Ouais, mais si Dieu ne me pousse pas à le faire, je ne vais pas le faire. » C'est Dieu qui a préparé. Et bien souvent, si vous voulez regarder Philippiens 2:13, c'est quelque chose qu'on sort souvent. En effet, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En effet, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc moi, en tant que chrétien, je lis ça, je dis, ouais, mais du coup, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si Dieu ne crée pas le vouloir et le faire, je ne vais pas le faire. Parce que Dieu n'a pas créé. Donc je n'ai pas besoin de faire. Pourquoi lire ma Bible si Dieu n'a pas créé le vouloir et le faire dans mon cœur? Donc je ne vais pas lire ma Bible. Pourquoi prier si Dieu n'a pas créé le vouloir et le faire à cet instant? Je ne vais pas prier. Prenons le texte dans son contexte, Philippiens 2:12, juste avant. C'est Philippiens 2:13, c'est Dieu qui fait. Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, et ensuite c'est Dieu qui créera le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez, cette notion de discipline en tant que chrétien est excessivement importante. Dieu nous appelle à lire sa parole, Dieu nous appelle à prier, mais bien souvent on se dit « Mais Dieu, tu ne me donnes pas encore envie à ce moment-là, donc je ne vais pas le faire. » J'ai pas envie de le faire, mais la discipline, c'est la foi qui se met en action. La discipline, c'est la foi qui se traduit par des œuvres. Pour prendre un exemple, en fait, moi, j'aime bien courir. Je cours beaucoup, enfin, maintenant un peu moins, mais j'aime bien courir. Et au départ, quand on court, enfin, moi, en tout cas, quand j'avais pas fait de sport, quand j'ai commencé à courir, la fin de ma première course, j'étais mort. Enfin, je sentais plus mes jambes, mes poumons allaient exploser, et je sais que j'étais dans un très mauvais état. Mais à force de courir, à force d'avoir cette discipline, j'ai pris plaisir. J'ai pris plaisir à courir. Je me suis habitué entre guillemets, à la souffrance, et cette souffrance est devenue un plaisir. Frères et sœurs, c'est normal si vous n'avez pas envie de lire la Bible, parce que vous êtes des pécheurs. C'est normal si vous n'avez pas envie de prier Dieu, parce que vous voulez vous prier vous-même, parce que nous sommes pécheurs. Encore une fois, même si nous sommes sauvés, entre guillemets, nous sommes encore de nature pécheresse. Mais Dieu nous invite à avoir cette foi. Est-ce que je sais qu'est-ce qui est bon? Et Dieu me dit que ça, c'est bon. Dieu me dit qu'il faut que je prie. Dieu me dit qu'il faut que je lise sa parole. Moi, je suis toujours en train de continuer dans mes choses. Est-ce que je crois que c'est la vérité? Est-ce que je crois que Dieu m'appelle à faire ça? Si je crois, même si c'est dur, même si ça me coûte, je vais y aller, je vais avoir la foi. Je vais avoir la foi que Dieu me demande de lire sa parole. Et je vais commencer à y aller, parce que je sais que c'est bon, parce que je sais que c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Et je vais commencer à me mettre en action. Et quand tu vas te mettre en action, Dieu va te pousser. Dieu va te faire avancer. Dieu va te faire grandir vers cette direction-là. C'est très important pour nous en tant que chrétiens d'avoir cette discipline et de se poser aussi la question pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois lire la Bible, par exemple? Je prends des exemples très très basiques, mais je pense que c'est l'exemple le plus important pour nous dans notre vie. Pourquoi est-ce que je dois lire la Bible? Est-ce que je dois lire la Bible parce que mon moniteur de groupe Samuel me l'a dit? Référence à Céline. Parce que ton moniteur d'école du Samuel te le dit de le faire. Est-ce que c'est parce qu'un frère me dit de le faire, de lire la Bible? Est-ce que c'est parce que tout le monde le fait, donc je le fais, je veux intégrer une communauté, je veux ressembler à tout le monde? Ou est-ce que je comprends fondamentalement c'est quoi le but? Quel est le but? Pourquoi Dieu me demande de lire ma Bible? Est-ce que j'ai confiance et j'ai la foi que la Bible, c'est bien plus qu'un livre, que la Bible, c'est la révélation de Dieu? Dieu veut nous parler, Dieu veut qu'on ait un one-one avec lui à chaque fois qu'on ouvre notre Bible. Qu'on soit un one-one avec lui à chaque fois que je me pose et que Dieu veut me changer, Dieu veut me montrer ce qu'il a à me dire à travers cette Bible. Et que si je ne l'ouvre pas, ma nature continuera, je continuerai à pécher. Je me prive, entre guillemets, de ce one-one avec Dieu quand je n'ouvre pas ma Bible. Est-ce que j'ai foi en ça? Est-ce que j'ai foi que Dieu se révèle et Dieu veut me parler à travers ça? De la même manière, la prière, c'est la même chose. Passer ce temps. Et si dans notre vie, on ne détermine pas ce qui est important, pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que la prière est importante? Pourquoi la lecture de la Bible est importante? Dans ce cas-là, dans nos vies, on ne saura pas fixer nos priorités. Si la lecture de la Bible est importante pour moi, dans ce cas-là, ça va devenir une priorité. Manger, on mange tous. On n'oublie jamais de manger. On sait que c'est important pour notre corps. On en fait une priorité dans notre vie. On a un temps déjà donné. Pourquoi pas manger spirituellement? Pourquoi est-ce que ce n'est pas également une priorité? Est-ce que ce n'est pas synonyme de survie pour nous? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça aussi en priorité? Les œuvres bonnes sont une conséquence de la grâce. La foi, c'est ce qui me met en action, c'est ce qui me pousse à faire ces œuvres bonnes. Parce que j'ai foi en Dieu, j'ai foi que je suis pécheur, j'ai foi que je dois changer, j'ai foi également que je dois lire ma Bible, et je vais lire ma Bible. La foi, c'est la conviction et la confiance qui va me mettre en action. Par contre, il y a une grosse différence entre les œuvres et les œuvres bonnes. Dieu a dit, Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Dieu n'a pas dit des œuvres, Dieu a dit des œuvres bonnes. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès inverse qui va dire, ok, je vais faire plein de trucs, je vais être responsable de toutes les cellules possibles, de tous les groupes possibles. Comme ça, Dieu il va pouvoir voir ce que je fais. Non. J'ai mis une petite formule ici, par, avec et pour lui. Est-ce que ce que je fais, c'est par Dieu? Est-ce que, par exemple, je vais lancer un événement d'évangélisation? Est-ce que c'est Dieu qui me pousse à le faire? Est-ce que c'est ma raison première, c'est Dieu? Est-ce que mon but, c'est Dieu aussi? Est-ce que je veux le faire pour Dieu ou est-ce que je veux le faire pour moi? Est-ce que quand je vais le faire avec Dieu? Est-ce que quand je vais organiser, quand je vais contacter les gens, est-ce que je le fais avec lui aussi ou est-ce que je le fais par mes propres forces? Si on suit cette règle par Dieu, Dieu me donne la raison. Pour Dieu, Dieu est le but de ce que je fais. Avec Dieu, Dieu est le moyen de ce que je fais. Là, je pense qu'on aura compris ce que c'est une œuvre bonne. Sinon, si Dieu n'est pas au commencement des choses, si Dieu n'est pas la fin de cette chose, et si Dieu n'est pas le moyen, on se perd et nos œuvres ne sont pas bonnes. Donc voilà, on a vu, on a tracé en fait le plan de l'évangile, notre nature pécheresse, qui est très importante à se rendre compte, pour qu'on soupire à la puissance de du sacrifice de Jésus-Christ. Si je ne me rends pas compte qu'il y a une mauvaise nouvelle, je ne me rends pas compte de l'importance de la bonne nouvelle. Et ensuite, que la foi est le moyen et que cette foi-là doit, en conséquence, avoir des œuvres bonnes que Dieu nous donne. Que nous puissions vraiment, en tant que chrétiens, nous reprêcher l'évangile. C'est vraiment ma prière aujourd'hui. Moi, j'essaie de me reprêcher l'évangile à chaque fois que je sens que je pars, entre guillemets, je ne respecte plus ça. Et j'essaie de remettre l'évangile dans ma vie. L'évangile, c'est pas juste quand je veux évangéliser quelqu'un. L'évangile, c'est une puissance de vie au quotidien, c'est quelque chose qu'on doit se reprêcher quotidiennement pour pouvoir bénéficier de la grâce du Dieu. Je vous laisse avec deux questions pour vous. Où en es-tu par rapport à l'évangile aujourd'hui? Où en es-tu par rapport à l'évangile? Est-ce que tu l'as accepté ou est-ce que tu le rejettes? Quelle est l'idée que tu en as? Est-ce que pour toi c'est juste une opinion, une croyance ou c'est une conviction? Est-ce que tu as foi dans la vérité du message de l'évangile? Deuxièmement, dans quel domaine de ta vie dois-tu mettre ta foi en action? Peut-être qu'on parle beaucoup, peut-être qu'on voit beaucoup, on a vu beaucoup de choses, mais quels sont concrètement les domaines de ta vie? Que ce soit la lecture de la Bible, que ce soit la prière, que ce soit peut-être l'amour envers ton prochain, le respect de tes parents, le respect dans ta famille. Quels sont les domaines spécifiques de ta vie où tu vois que tu ne portes peut-être pas encore de fruits et où tu dois mettre justement ta foi en action? Je vous laisse vraiment avec ces deux questions. Et si justement dans ces deux questions-là, vous vous rendez compte qu'il y a des endroits ou des moments où vous devez refaire confiance à Dieu, où vous devez, entre guillemets, vous écarter de votre vision des choses et revenir à celle de Dieu, reprenez l'évangile et reprêchez-le, vous, dans son entièreté. Parce que c'est une puissance de Dieu qui sauve. Je veux, frères et sœurs, qu'on puisse dire « Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est une puissance qui sauve, c'est une puissance qui me transforme, qui m'a transformé quand j'ai accepté Jésus-Christ, et qui continue à me transformer chaque jour, parce que c'est une parole vivante de Dieu. » Je vous laisse donc avec ces questions-là. Réfléchissez chez vous, et priez le Seigneur pour qu'il puisse vous montrer ce qu'il a à vous dire, ce qui a changé dans vos vies. On va prier pour terminer. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ton évangile, Seigneur. Merci pour ce message qui paraît si simple, Seigneur, mais qui est si profond, qui nous montre à quel point tu nous aimes, Seigneur, à quel point nous étions loin de toi. Seigneur, je veux te remercier parce que ta grâce a surabondé, Seigneur, là où nos fautes nous avaient écartés de toi, Seigneur. Père, je te demande vraiment que la puissance de cet évangile, Seigneur, on puisse se l'approprier. Qu'on puisse pas simplement en parler, Seigneur, et le partager, mais d'abord, Seigneur, qu'on puisse le vivre. Comment peut-on partager un message si nous n'avons pas vécu, si nous n'avons pas expérimenté, Seigneur? Continue vraiment par ton Saint-Esprit à travailler nos cœurs, à travailler notre esprit, à travailler notre vie, afin que nous puissions être des témoins vivants, Seigneur, de ton évangile chaque jour, Seigneur. Aide-nous à puiser dans la puissance de l'évangile, Seigneur, pour transformer nos vies. Je te remets chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Continue à nous transformer, Seigneur, par ta parole. Je te prie en ton Fils Jésus-Christ. Amen.